Simplement, il est difficile de penser qu'un médecin ne puisse pas s'intéresser à l'éthique, surtout avec tout ce qui se passe, tout ce qui est arrivé. Je vais donner mon origine pour que vous sachiez, pour que vous puissiez sentir les nuances qui pourraient arriver dans le texte. Moi, je suis d'origine culturelle catholique, catholique romain. Et donc, l'éthique est l'éthique telle qu'il peut se concevoir depuis que je suis rentré en maçonnerie, et effectivement celui de quelqu'un qui est passé à une position très matérialiste sur le plan philosophique. Donc, dans ce travail que je vous présente, il n'y a pas de volonté délibérée d'avoir exclu tous les problèmes de spiritualité ou de religiosité. C'est un a priori qui est pris. Le débat aurait pu se faire aussi sur ce mode-là. Si la salle veut le faire, on sera toujours ouvert pour en discuter. Le respect, effectivement, des opinions est majeur. Et effectivement, comme en maçonnerie, cette conférence est basée essentiellement sur le concept de liberté, qui est d'ailleurs le pilier essentiel de l'éthique. Est-ce que je vais être obligé de garder ça comme ça? Bon. Le travail se présente sous quatre morceaux. Le premier, c'est un préambule qui va nous faire entrer dans la conception qu'on peut avoir, que je vous présente de l'éthique, et sur en quoi elle se fonde, sur une position quand même que l'on peut dire ontologique, sur la position de l'être, et sur cette base-là, on déclinera effectivement d'abord les raisons en disant bien que le socle, c'est la dignité de la personne humaine, et de l'expliquer, et sur cette base-là, nous déclinerons une partie de l'éthique d'une façon générale, ne serait-ce que pour rappeler ce qu'est l'éthique, ce qui n'est pas tout à fait évident dans les messages divers médiatiques que nous recevons les uns les autres, et ceux perturbés par les émotions. Et puis nous viendrons à la bioéthique proprement dite, l'éthique médicale et l'éthique des biosciences. Et puis nous regarderons effectivement qu'est-ce qui se passe en médecine pour en arriver là, et quels sont les problèmes que posent, pas tous, car c'est énorme, mais un certain nombre de problèmes que j'ai sélectionnés, et puis nous aurons à débattre sur ceux que vous aimeriez voir débattus. Sur la marchandisation, on donnera une opinion de ce qui se passe dans la réalité. Et ensuite, on essaiera d'imaginer que la prospective sur la bioéthique pourrait sortir de cette assemblée. Voilà, on commence. Le développement vertigineux des biosciences et biotechnologies sont en convergence avec les révolutions numériques et cybertechnologiques. Elles métamorphosent de plus en plus radicalement l'ensemble des activités humaines, tout en interpellant les hommes sur leur nature présente et future. Ces métamorphoses apparaissent de plus en plus intégrées comme conformées au processus de globalisation planétaire, des échanges scientifiques, technologiques, industriels, commerciaux, financiers et donc socioculturels. En cela, elles sont ressenties de façon confuse comme incontrôlables, voire aliénantes. Paradigmatiques, ces révolutions manipulent efficacement le monde de façon de plus en plus objective et métamorphosent là encore les structures du monde vivant, et cela inquiète. Ces révolutions sont cependant en toute logique les conséquences de la liberté de la raison, du développement de la liberté de pensée, de la liberté de conscience, de l'esprit critique, de la méthode expérimentale, du matérialisme, entre guillemets de la mort de Dieu, de l'individualisme existentiel poussé à l'extrême, de la laïcisation et de la fin des idéologies. Ce mouvement a progressivement façonné une civilisation technicienne et scientifique en Occident à partir de l'humanisme de la Renaissance, en passant là aussi par des périodes qui sont ceux de la Réforme, du siècle des Lumières, de la Révolution française, des droits de l'homme, du capitalisme et de l'industrialisation, des tragédies barbares du XIXe et XXe siècle, qui permettent de réactualiser le respect de la dignité de la personne humaine, qui, quoique sous forme d'un principe de droit, est en pratique précarisée au cours des crises récurrentes de l'économie libérale marchande du capitalisme mondialisé, dans des configurations collectives instables et au futur improbable. Ces révolutions modernes et postmodernes sont les conséquences logiques, et c'est ça qui est important. Elles sont logiques. Des prolongements de la Renaissance, marquées des tensions extrêmes entre religion et liberté de pensée. L'esprit critique, victorieux, assure la sécularisation du monde, installe la volonté et la force d'émancipation de l'humanisme, propice au progrès par le développement du savoir scientifique et technique qui l'exalte. De cet humanisme et de ces différentes controverses émergent les deux notions d'individu et de personne humaine, érigées comme des principes universels, bien qu'ils ne soient pas rapportés à aucune définition de ce que serait la nature humaine. Qu'elle soit au sein de la nature, à côté de la nature, au-dessus de la nature ou au-dessous de la nature. Les essais de circonscrire, de définir cette nature humaine ont été nombreux et le reste encore. Cependant, dans le cadre qui nous intéresse, et pour la suite de la présentation, j'ai retenu ce qui me semble être une des meilleures définitions, entre guillemets, c'est la mienne, de la nature humaine qui soit encore à ce jour. Mais pour combien de temps encore? Il s'agit de celle donnée par la fulgurante intuition synthétique quasi prophétique de Pic de la Mirandole au XVe siècle, dans Horatio de hominis dignitate, écrit en 1486, où il précise que la nature humaine est de ne pas en avoir, que l'homme est ce qu'il se fait et devient ce qu'il est. Il est mieux que les anges, mais en tant que ce qu'il est, il détient la capacité et la responsabilité de s'élever comme de s'abaisser. L'Horatio crédite ainsi l'homme d'une plasticité oncologique, ce qui faisait que Pic de la Mirandole avait donné le qualificatif à l'homme de caméléon. Ainsi, la spécificité de l'homme, sa liberté inhérente substantielle, et ce pouvoir de se donner à lui-même, par lui-même, une essence. Pic cerne ce qu'il y a de spécifiquement humain, la dignité de la liberté. Cette assertion est au fondement de l'humanisme occidental. Avec sa liberté constitutive, l'homme en équilibre instable et toujours précaire se tient sur la ligne de crête entre le bien et le mal, le bon et le mauvais en éthique. Et seule son autonomie l'oblige à en répondre en regard de sa propre conscience. La liberté est bien la condition de l'éthique. De ce fait, l'assomption de l'individu par et dans sa liberté dispose celui-ci comme un référentiel au développement d'une civilisation entière. Entre guillemets, dans toute acceptation du terme, libéral au sens propre. Les effets de la rationalité régissent l'existence de l'homme par des lois que la science lui permet de connaître et d'instrumentaliser par la technique pour maîtriser, exploiter et exploiter le monde. Pour la satisfaction de ses manques, de ses besoins, de ses désirs et volontés. Tandis que le religieux et son autorité normative révélée se retire, ce qui conduit au désenchantement du monde émis par Weber. Alors vous me direz, pourquoi penser cette indéfinition, cette indétermination serait la meilleure des définitions de la nature humaine? En cela, trois raisons. D'une part, parce qu'elle met en exergue cette faiblesse constitutionnelle de l'homme et fonde de façon inachevée toutes les formes de la liberté, comme le facteur essentiel de l'adaptation. Au sein de cette indétermination foncière, corrélative de la plasticité de l'homme. Cette plasticité est identique à celle de la matière, ce que les biosciences nous ont fait découvrir, dont il est constitué et qui conditionne sa dynamique évolutive. D'autre part, au sein de ces environnements, en termes de génétique, on parlerait d'épigénétique, une telle instabilité de l'homme l'architectonise et le façonne comme un organisme perpétuellement jamais fini. Jamais fini. Comme en phase d'adolescence permanente, en tant qu'espèce et en tant qu'individu, ce qui correspond à un concept qui regagne d'intérêt, celui de la néothénie, élaboré par Julius Cobham dans les années 1880. En résumé, la néothénie dit quoi? Que l'homme est du point de vue corporel un fœtus de primate parvenu à maturité sexuelle. C'est Bolk. Actuellement, des philosophes, Dany Robert Dufour, émet que l'inachèvement de l'homme en fait un être intrinsèquement prématuré, dépendant de la relation à l'autre par laquelle s'élabore la culture au sein de la nature propre à cette espèce. De cette phase particulière de l'évolution, l'homme s'intègre au monde par la parole, la croyance symbolique au cours de l'évolution. L'homme s'intègre au monde par la parole, la croyance symbolique et la création prophétique, prothétique, c'est-à-dire par la technique. Lacan défendait la thèse d'une prématuration spécifique de la naissance chez l'homme. Il est fondamentalement inachevé, constitutivement déficient. Ce concept a fait l'objet d'une thèse très intéressante. Elle sera dans les bibliographies qui accompagneront le texte que vous pourrez trouver sur le site. La troisième raison, est que le concept de cette plasticité ontologique implique que cette indétermination est une valeur majeure fondatrice, quoique très ambiguë, les textes sont très nombreux sur ce problème-là, de la dignité de l'être et de la personne humaine, devenue très opérative en droit, notamment national et international, qui impose de façon constitutionnelle et universelle le respect de la personne humaine en tant qu'ayant une dignité. La dignité, si on regarde les définitions, c'est initialement le fait de mériter d'être. C'est une valeur qui est intrinsèque, qui est inconditionnée, au sens qu'on tient du terme. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de valeur relative, elle est sans équivalent possible, elle est sans prix, elle est donc inaliénable et indisponible. Elle institue que l'homme est une fin en soi et qu'il ne sera jamais utilisé en sa propre personne, aussi bien qu'en la personne de tout autre homme, comme un moyen. Kant. Cette conception de la plasticité ontologique qui crédite l'homme d'une indétermination foncière, effective et porteuse de potentialités adaptatives, physiques et culturelles. Et cela, c'est pour ça que j'ai choisi cette définition, est en accord et de plus en plus souvent confirmé par les biosciences qui expérimentent et nous font accéder opératoirement à la plasticité du vivant, en général et de l'homme notamment, et au niveau de ce qui le caractérise le plus fonctionnellement, au niveau de ses structures cérébrales. Ce savoir de la plasticité est mis en œuvre et appliqué par les biotechnologies de façon fonctionnellement opératoire et désormais, dans de nombreux cas, de façon industrielle. Banalement, on accède peut-être rapidement aux modalités de cette plasticité constitutive, aux briques élémentaires de la constitution de la vie et des organismes vivants, à partir de l'agencement moléculaire de l'ADN et des ARN, jusqu'au niveau cellulaire, des cellules souches embryonnaires, totipotentes et pluripotentes, au niveau des organes des êtres et des individus, possibilités de greffe tissulaire, d'organes, de thérapie génique, de transgénèse, d'ingénierie génétique, de plasticité cérébrale, d'interfaçage cerveau-machine, cerveau-informatique, utilisation de nouveaux matériaux comme succédané de la matière avec les nanotechnologies, bio-exo et endoprothèses bioniques, constitution de cyborgs et tout. On pourrait faire, l'énoncé de tout ce que la science-fiction, depuis 40 ans, a émis dans ses ouvrages. On y est. La liberté, l'imagination, la raison, l'inventivité de l'espèce humaine apparaît donc sans limite. Tous les possibles, même les plus apparemment improbables, utopiques, sont envisagés. Sachant qu'à tout moment, tout pourrait être cependant chamboulé par l'émergence de conceptuels et de loi de la matière jusqu'ici ignorée. On n'est évidemment pas à l'abri de découvertes essentielles dans l'ordre de la matière, et la partie n'est jamais finie. Pour l'heure, en ce début du XXIe siècle, post-Jésus-Christ, en cette ultime étape de 3 à 2 milliards d'années de l'évolution de la vie, la puissance de Dame Nature permet à son rejeton le plus faiblard de copuler incestueusement avec elle, après avoir mis la main sur un véritable Graal, en ayant rechapardé un nouveau fruit sur l'arbre de la connaissance, ou de retransplanter l'arbre lui-même en dehors de l'Éden, sur un trajet qui pourrait quand même peut-être être celui de l'enfer. Sous la pression du milieu, métamorphosé par les technosciences, avec ses incommensurables capacités indéterminées d'adaptation, l'homme savoure les mythes où il est à la fois Prométhée, Héphaïstos, Faust, Frankenstein, le golem, Dédale, Pygmalion. Mais il reste gardien de lui-même entre le bien et le mal, entre la vie et la mort de la vie, et pour certains, nous le verrons, la mort de la mort. Tel est donc le cadre de ce qui nous arrive et qui nous attend, et sur lequel je voulais asseoir vous donner un aperçu de ce qui se passe quand nous discutons d'éthique. Sur quoi ça s'appuie? Ainsi, Henri Atlan, personnage éminemment scientifique, éminemment spiritualiste, conçoit comme une rupture affolante, ceci comme une rupture affolante de l'histoire de l'humanité. Les mots sont pesés, hein. Rupture affolante de l'histoire de l'humanité, ce qui fait que Fukuyama a même été jusqu'à dire que c'était la fin de l'histoire. Et cela semble finalement, tout cela semble finalement logique et normal. Je pense, moi, au niveau de mon matérialisme, quasiment dans la nature des choses, quasiment naturelle, il s'agit de la fameuse nature naturante. L'homme exerce sa nature conformément à la liberté et à l'accroissement physique et technique que celle-ci lui permet d'avoir. Il devient ce qu'il se fait. Certains verront ici effectivement avec raison la volonté de puissance à l'œuvre au service de la tyrannie des désirs. C'est fait partie aussi, ça, de ce qui se passe dans les éléments des débats éthiques. Ce cadre aussi est celui de tous les risques, néo ou méta-évolutionnistes, pour l'individu de la personne humaine, pour l'espèce, pour l'homo sapiens, pour le règne du vivant, pour la nature. Reste que la dignité de la personne humaine est la pierre de fondation, et la clé logique de l'éthique. Venons à l'éthique, à la bioéthique, à l'éthique marchande. Dans ce contexte, celui dans lequel nous vivons, nous assistons à un déplacement de l'éthique médicale, qui était initialement plutôt déontologique, en bioéthique, utile, nécessairement ouverte et qui résulte des rapides progrès des biotechnologies. Contemporaine, cette bioéthique, elle plonge ses racines dans le contexte politique et social du libéralisme individualiste des années 1960 et qui continue à se conjuguer. L'interférence avec l'évolution de la société, de ce qui se passe en science, est absolument étroite, et lorsque, effectivement, la démocratie amène les individus à se saisir de la puissance de la science, ils s'expriment d'abord comme des individus libres. De là naît une inquiétude éthique. Mais cette inquiétude éthique est caractéristique de la conscience occidentale contemporaine, qui, après l'humanisme triomphant, a dû subir un certain nombre de déboires, je pense, on y pense toujours. C'est d'ailleurs eux qui ont refondé la notion de dignité de la personne humaine, c'est-à-dire les horreurs nazies. Drôle de dialectique. L'approche des enjeux éthiques intégrée, les injonctions de dignité, d'autonomie, de vulnérabilité à l'ensemble de nos pratiques sociales. En regard des nouvelles puissantes capacités d'intervention sur le vivant, les médecins et les médecins-chercheurs, deux nuances, sont dès lors confrontés dans leur indépendance solitaire à des ambiguïtés morales, conflictuelles et des dilemmes éthiques inédits, en face desquels la conception traditionnelle, hippocratique et déontologique de l'éthique, de la responsabilité médicale, s'est avéré et s'avère inadapté.